suis professeur émérite à Sorbonne Université et je suis en philosophie. J'ai été longtemps plutôt un historien de la philosophie, mais disons que je me suis spécialisé dans les années 90 autour des sciences cognitives, de l'intelligence artificielle. J'enseignais à ce moment-là à l'Université de technologie de Compiègne et je me suis trouvé déporté progressivement vers les questions relatives au transhumanisme à une époque où on n'en parlait pas du tout. Le premier livre que j'ai écrit sur la question date de 2009, s'intitule « Demain les post-humains ». Il y a comme sous-titre « Le futur a-t-il besoin de nous ?» Et quand j'ai écrit et publié ce livre, mes collègues à la Sorbonne ont ouvert de grands yeux, se sont dit que j'étais décidément fichu pour la philosophie, que j'avais viré ma cutie et que j'étais dans la science-fiction, et que c'était pas raisonnable, et que c'était peut-être même pas tout à fait digne de la Sorbonne. Ça m'a été dit clairement, puisque la première réunion de l'Association française du transhumanisme a eu lieu à la Sorbonne par mon truchement, et la hiérarchie de la Sorbonne s'est émue très très vite de la chose, puisque Marc Roux, le président de l'Association française du transhumanisme, avait affiché de son côté que le transhumanisme existait, puisque il avait été livré aux fonds baptismaux de la Sorbonne. Donc tout ça est très compliqué. Si je vous raconte ça, c'est parce que les choses ont tellement changé rapidement, de manière incroyable. Donc le transhumanisme, c'était quelque chose qui relevait de la secte en 2009, et c'était quelque chose de sulfureux, et puis, bon, comme je viens de le dire, de l'ordre de la science-fiction. Et puis progressivement, j'ai vu le thème du transhumanisme devenir de plus en plus recevable, au point que l'Agence nationale de la recherche m'a plusieurs fois demandé de participer à la rédaction d'appels à projets sur le transhumanisme. Donc on a de plus en plus de thésards qui font des travaux dans le contexte du transhumanisme. Je fais soutenir 4 à 5 thèses par an sur la question. Donc on peut se dire qu'on a désormais un thème qui est canonisé, qui est en tout cas tout à fait acceptable. Je suis pas sûr qu'on doive s'en réjouir forcément, mais en tout cas c'est une donnée avec laquelle il faut faire. Bon, pour ma part, quand j'ai accueilli ce thème, quand j'ai commencé à le défricher, je le faisais dans un contexte effectivement un petit peu polémique à l'égard de mes collègues de philosophie, dont j'ai toujours trouvé que il méprisait par trop la technique et tout ce qui ressemble à de la technique. Comme j'avais été à l'Université de technologie de Compiègne, j'étais bien placé pour le savoir. Et je me suis efforcé très très vite de dire cette question du transhumanisme qui pose la question de l'innovation technologique et qui pose la question de l'acceptabilité des technologies, c'est une question absolument décisive, civilisationnelle, même si l'on peut dire, et si l'on pense comme les paléo-anthropologues, que nous sommes le produit, le double produit de la technique et de la parole. Nous sommes, de ce point de vue-là, foncièrement inscrits dans la technologie. La technique et le langage sont les deux mamelles, si je puis dire, qui ont conduit à l'hominisation. Et l'essentiel de la vie intellectuelle et culturelle de l'Occident a toujours consisté à savoir quel poids donner respectivement à l'un et l'autre. On a été longtemps dans une société qui disqualifiait la technique au profit du langage. Ça se voyait même dans les institutions, ça se voit toujours, puisqu'il y a toujours une dépréciation a priori pour les cursus techniques, alors qu'il y a une hypervalorisation des cursus littéraires. Et si vous prenez l'encyclopédie de Diderot, elle repose essentiellement là-dessus, réhabiliter les travaux manuels, les activités manuelles, pour donner moins de poids à ce qu'on appelait les arts libéraux à l'époque. Diderot écrit un magnifique chapitre dans l'encyclopédie pour argumenter cette idée qu'on ne peut pas laisser l'humanité boiter hein, marcher que sur un pied. Hein, donc, eh bien, aujourd'hui, je dirais que c'est presque le contraire à quoi on assiste. Hein, une hypervalorisation sans doute des technologies, avec une minimisation du langage, un discrédit sur le langage qui est parfois alarmant et sur lequel je reviendrai. Voilà donc pour situer... disons mon mobile de philosophe à entrer dans ces questions et à tâcher de débrouiller ces questions. Alors je ne sais pas à quel point vous en êtes les uns et les autres sur ces questions, mais je vais faire comme si vous étiez relativement encore candide, et je vais vous proposer au fond quelques pistes de lecture du transhumanisme ou des différentes versions du transhumanisme, et je vais le faire évidemment de manière un peu ramassée et elliptique, mais donner peut-être une géographie, hein, qui permettra peut-être de cerner un peu mieux le concept de transhumanisme. Alors d'emblée, ce que je dois dire, c'est que le transhumanisme ne me paraît pas avoir une homogénéité doctrinale. Il n'y a pas une doctrine du transhumanisme qui permettrait en quelque sorte de s'en faire un concept univoque. Il y a quelques figures médiatiques, hein, qui sont associées au transhumanisme, et ces figures médiatiques ne sont pas forcément, j'allais dire, en consonance. Hein, je cite quelques noms, Nick Bostrom par exemple, donc philosophe suédois qui est associé à l'un des premiers grands mouvements, l'Association mondiale du transhumanisme dans les années 1998. Hein, donc bon, Nick Bostrom, bon, représente un courant. Hein, Max Moore, fondateur d'un mouvement qui s'appelle les Extropiens, sur lequel je reviendrai dans un instant, bon, on représente un autre, Ray Kurzweil, peut-être le plus connu, le plus notoire aujourd'hui, c'est un troisième. C'est un troisième acteur, un troisième technoprophète, bon, qui n'est pas forcément en accord avec les deux premiers. Bon, très très vite, avec Nick Bostrom, on a affaire à quelqu'un qui émet le vœu de réaliser le bien-être et la perpétuation de l'humanité grâce aux technosciences. Avec le deuxième, Max Moore, on a affaire à quelqu'un qui vise à mobiliser les technosciences pour aller à l'encontre du deuxième principe de la thermodynamique, hein, faire en sorte d'aller à l'encontre de l'entropie de l'univers. Donc c'est un projet absolument démentiel, hein, démentiel et farfelu, disons-le, mais en gros, ça signifie que Max Moore se situe sur un terrain qui est plus écologique, sans doute plus à dimension écologique que Bostrom ou que Ray Kurzweil, le troisième, dont le nom est associé à cette université de la singularité, hein, qui vise à réunir, disons, des visionnaires ou des apprentis visionnaires, hein, qui ont tous en vue l'idée que nous nous acheminons vers une rupture, hein, dans le continuum de l'espèce humaine, et que nous sommes aux portes de faire advenir quelque chose d'autre. Hein, la singularité dit cette indéfinition de ce quelque chose d'autre qu'on pourra appeler, pourquoi pas, le post-humain. Donc, pas d'unité doctrinale. Alors, je ne parle pas de la France, mais bon, il y a une association française du transhumanisme que dirige quelqu'un qui s'appelle Marc Roux, bon, et qui est peut-être plus près de Bostrom que de Kurzweil. Hein, pour ma part, j'ai eu souvent des débats avec Marc Roux, et j'ai toujours prétendu qu'il avait tort de se laisser désigner comme transhumaniste, qu'il y avait davantage chez lui quelque chose que je qualifierais, moi, d'hyperhumanisme. C'est un hyperhumanisme qu'il veut réaliser, et non pas un transhumanisme. Il veut le perfectionnement de l'humain. Didier Kermel, que vous avez peut-être entendu ici et sur cette base-là aussi, et pour moi, ils sont transhumanistes par abus de langage. Hein, et quand quelquefois Marc Roux y consent, il dit bah oui, moi je cherche un autre transhumanisme, dit-il, un autre transhumanisme que celui de la Silicon Valley. Reste que quand on creuse un petit peu la chose, on s'aperçoit que au fond, il est plutôt dans la lignée, disons, de la philosophie des Lumières et des proclamations de Condorcet, n'hésitant pas à dire que la science et la technique pourraient nous octroyer l'immortalité. Donc c'est plutôt dans ce contexte-là. Mais vous allez le voir, je pense que le transhumanisme n'est pas du tout de cet ordre-là. Au fond, il y a deux versions. Il y a une version un peu positive, celle qui dit on va perfectionner l'humain, et puis il y a une version proprement cynique, hein, qui dit on va peut-être abandonner l'humain pour quelque chose d'autre, pour une autre espèce. Hein. Donc il y a une stratégie de continuité, si l'on veut, ou de progressisme dans le premier cas, et il y a plutôt une visée de rupture. Et d'avènement d'un œuf dans l'autre cas. Donc, retenez en tout cas pour l'instant que le transhumanisme est plutôt ambivalent, plutôt équivoque, hein, et que quelquefois il s'avance un peu masqué. Hein. Au sein même du transhumanisme le plus banal, il y a aussi des équivoques de cet ordre-là. Hein. Dans mon débat avec Laurent Alexandre, il est très très clair que Laurent Alexandre représente au sein du transhumanisme la branche qui considère que l'avenir de l'humain est dans la cyborgisation, c'est-à-dire l'hybridation de l'électronique et de biologique, pour aller vite, alors que d'autres peuvent défendre au sein du transhumanisme quelque chose qui va plutôt du côté de la bionisation. Soit vous misez sur l'intelligence artificielle, soit vous misez sur le décryptage du génome et sur CRISPR-Cas9 et tous ces éléments-là. Hein, on voit que là aussi, il n'y a pas d'unité doctrinale. Hein, on est dans quelque chose qui est plutôt de l'ordre d'une nébuleuse. Au fond, le transhumanisme, c'est une nébuleuse, hein, qui associe des activités, des perspectives, des philosophies, des conceptions du monde différentes. Alors, néanmoins, je dirais, pour être un peu plus précis, que en aucune façon le transhumanisme n'est une philosophie. Ça n'est pas une philosophie. Il n'y a pas d'organisation conceptuelle chez les transhumanistes. Il n'y a pas toujours d'argumentation. Il y a rarement d'argumentation. Laurent Alexandre m'a posé bien des problèmes dans ce livre et dans les débats qu'on a pu avoir, lui et moi, parce qu'il n'argumente pas. Hein. Il est dans l'ordre du constat, du fait. Il y a des faits, dit-il. Ces faits, on peut les chiffrer. Hein, et on peut tourner le dos aux faits, et à ce moment-là, on restera sur la touche, hein, ou alors on peut s'emparer des faits pour abonder dans des activités qui vont dans leur sens. Mais l'argumentation, c'est une manière de se dérober à ses yeux, et ça n'est en aucune façon la voie qu'il faut emprunter. Il n'y a a fortiori pas de questionnement métaphysique à proprement parler chez les transhumanistes, même s'il peut y avoir des implicites métaphysiques. Ils peuvent véhiculer des idées métaphysiques, et je vais montrer qu'ils le font, hein, mais ils ne revendiquent pas une métaphysique. Quand ils s'aventurent un peu sur ce terrain-là, ils peuvent dire, comme l'Association française du transhumanisme, qu'ils sont matérialistes, par exemple. Hein, donc ils vont affirmer un matérialisme. Mais d'autres, dans le même temps, vont s'affirmer spiritualistes. Et quelquefois, ils vont aller s'inspirer de traditions comme celle de Teilhard de Chardin. Hein, donc, père jésuite, paléo-anthropologue, qui a dessiné toute une métaphysique, toute une cosmogénèse, très très discutée par l'Église catholique, et même diabolisée par l'Église catholique, pour une bonne part. Donc vous voyez, vous pouvez voir des gens, ils ne sont pas philosophes, ils se réclament pas d'une métaphysique, mais bon, ils peuvent essayer d'accorder leur engagement, soit sous le signe d'un matérialisme, et alors ils diront qu'ils sont disciples de la maîtrise, par exemple, soit du côté d'un spiritualisme, et à ce moment-là, ils vont se revendiquer de traditions multiples. Moi, le gros du travail que je mène actuellement, c'est d'essayer de montrer comment les traditions gnostiques des deux premiers siècles de la chrétienté trouvent des échos chez certains transhumanistes. J'y reviendrai peut-être dans un instant. Donc, plus qu'une philosophie, je dirais que le transhumanisme, c'est plutôt un argumentaire qui est favorable à la cause des technologies. Et on est plutôt dans la revendication de publiciser, disons, les innovations technologiques, hein, pour les booster, pour les accompagner. C'est plutôt cela. Et quelquefois, le transhumanisme se traduit par la production de quelque chose comme un catéchisme à l'usage de ceux qui veulent croire dans le pouvoir régénérant des machines. Donc, les transhumanistes se reconnaissent souvent à cela. Ils disent « les technologies nous donnent les moyens de ceci et de cela, il faut donc leur donner tous les points, hein, toutes les cartes, hein, de façon à ce qu'ils puissent réaliser ce qui se révèle de plus en plus possible. Hein. » Donc ça n'est pas une philosophie, de ce point de vue-là. Ça n'est pas non plus une utopie. Ça, j'y tiens un peu plus, parce que c'est peut-être un peu plus paradoxal. Ça n'est pas une utopie au sens où une utopie, c'est toujours un récit qui décrit un monde idéal, hein, un monde idéal, et qui, par conséquent, suggère les normes qui pourraient permettre de réaliser ce monde idéal. Hein, quand Thomas More écrit son utopie, c'est pour donner des leçons à ses contemporains, pour leur dire, regardez, on pourrait acheminer la société vers cet idéal, moyennant la mise en œuvre de moyens, moyennant une réforme morale, enfin, etc., etc. Non, chez les transhumanistes, je ne trouve rien de normatif en ce sens, ni même de critique du statu quo. Si, ils peuvent être critiques de la manière dont la politique se déroule ou des choses comme ça, mais c'est pas le fond de leur position. Pour le dire même plus brutalement, je crois qu'il n'y a pas de devoir-être formulé par les transhumanistes. Hein, ce que je disais un peu tout à l'heure, en disant il y a des faits. Voilà, soit vous suivez les faits, soit vous êtes relégué dans l'obsolète. Hein. Mais il n'y a pas de devoir-être, de programme de réforme. Il n'y a pas d'imaginaire qui serait présenté comme attractif, à proprement parler. On n'est pas dans le prosélytisme de ce point de vue-là. Il n'y a pas de militantisme pour la cause transhumaniste, hein, même si on peut faire du bruit dans les médias autour de cela. Non, ce que je perçois surtout, c'est qu'il y a un imaginaire peut-être du transhumanisme, mais un imaginaire qui résulte d'abord de l'extrapolation que l'on peut faire à partir de possibles technologiques. Hein. Il y a des possibles technologiques, hein, on extrapole à partir de là et on crée un imaginaire. Hein, vous prenez, je sais pas moi, l'imaginaire par exemple de l'immortalité grâce à ce qu'on appelle le mind uploading, c'est-à-dire le téléchargement du contenu du cerveau sur des puces de silicium ou sur le cyberespace. Bon, voilà, on nous dit l'immortalité pourrait passer par là. Bon, il y a une plausibilité technologique, hein. Ça marche, cela, on met ça en œuvre, on développe ça à Grenoble, au sein du Clinatech, ou au CERN, dans le cadre du Human Brain Project. Donc il y a des laboratoires qui travaillent sur des problématiques de cet ordre-là, et les transhumanistes extrapolent à partir de là et disent, ben voilà, le vieux rêve d'Asimov pourrait se réaliser si on mettait la pédale forte de ce côté-là. Vous avez un livre qui a été un petit peu prémonitoire de Eric Drexler, qui s'appelle « Engin de création ». Il a été traduit par Bernadette Bensaud-Vincent il y a quelques années, bon, sur les nanosciences, bon, qui est typique de cela. Hein. Eric Drexler examine ce qu'on fait dans le domaine des nanosciences et des nanotechnologies, donc ce travail au 1 milliardième de mètre au sein de la matière. Hein, bon, bah, Drexler en infère la possibilité de créer des assembleurs moléculaires qu'on pourrait mettre dans le corps qui permettraient de réparer l'ADN, etc., etc. C'est une extrapolation. Hein, donc on s'empare d'innovations technologiques ponctuelles pour pouvoir extrapoler et inventer un futur dont on ne dit pas qu'il est forcément souhaitable, désirable, mais qui sera, hein, qui adviendra. Kevin Warwick, dont j'évoquais le nom tout à l'heure, qui travaille beaucoup sur l'hybridation de l'électronique et du biologique, bon, et qui se présente comme le premier cyborg au monde, bon, est tout à fait dans ce cadre-là. Hein, il travaille à l'idée qu'un jour, nous n'aurons plus besoin de communiquer par le langage, puisque nous pourrons mettre en place des interfaces cerveau-cerveau. Bon, ça, c'est aussi quelque chose de plausible. Hein, on travaille sur des interfaces cerveau-machine, grâce au décryptage de schémas synaptiques qui transitent par voie d'ondes électromagnétiques sur des bras d'ordinateur ou des choses comme ça. Hein, ou des souris d'ordinateur. Bon, ce travail qui existe, qui se révèle efficace, il est extrapolé pour permettre d'imaginer un jour que nos relations ne soient plus des relations de dialogue, mais des relations de signaux grâce à la transmission d'ondes électromagnétiques. Hein. Donc voilà, pas d'utopie à proprement parler, mais simplement une pratique systématique de l'extrapolation, hein, qui permet de définir des voies, des tendances, hein, et de nous prédisposer à l'accueil de ces innovations futures. Ça n'est pas une axiologie, le transhumanisme, hein, et je l'ai déjà dit, parce qu'il se révèle largement indifférent à l'éthique. Les questions éthiques n'intéressent pas les transhumanistes. Là aussi, c'est une perte de temps pour eux. C'est-à-dire la question de l'organisation de la vie collective en vue du bien, ce qu'on appelle l'éthique, hein, ça ne les intéresse pas. Ils peuvent s'intéresser à la limite à l'éthique, mais prise en un sens extrêmement minimal, c'est-à-dire l'évaluation des avantages et des inconvénients. Hein. Donc, si vous définissez l'éthique comme l'évaluation des avantages et des inconvénients des machines, alors, bon, ils peuvent s'intéresser à la question. Mais si vous définissez l'éthique de manière un peu plus noble, comme la recherche de l'idée du bien selon lequel nous voudrions vivre individuellement et collectivement, alors ça, ils s'en moquent complètement. C'est là peut-être où il y a un malentendu entre le premier philosophe contemporain à avoir utilisé le mot post-humanisme et puis les transhumanistes. Sloterdijk, donc, qui en 1999, dans cette fameuse conférence qui s'appelle « Règles pour le parc humain », évoque le post-humanisme. Il le fait en disant « post-humanisme, c'est recherche d'un humanisme après l'humanisme. C'est recherche d'un humanisme contemporain des technologies, contemporain du numérique. » Il est dans une perspective très très éthique, Sloterdijk. Il dit « ben voilà, nous avons longtemps vécu sur des modèles qui étaient contemporains de l'imprimerie, qui étaient contemporains du livre, de la culture du livre, etc. Aujourd'hui, ça marche plus, on lit plus. » On imprime de moins en moins, mais par contre, on a le cyberespace. Et Sloterdijk dit, bah, comment peut-on reconstituer un humanisme dans ce contexte-là, hein? Et cet humanisme nouveau, on l'appellera le post-humanisme. Là, il est dans une perspective qui est encore très très éthique. Alors que les transhumanistes, quand ils parlent de post-humanisme, c'est pas du tout l'humanisme qu'ils ont en vue, hein? C'est simplement l'émergence possible d'un autre humain que l'humain que nous sommes, hein, et une émergence qui serait biologique ou informationnelle, si c'est l'intelligence artificielle qui prenait le pas. Donc, je dirais d'une manière générale que si le transhumanisme n'est pas axiologique, c'est que la chose sociale ne le préoccupe pas. De ce point de vue-là, le transhumanisme, c'est un avatar d'un ultralibéralisme qui hypervalorise l'individu et qui déserte la question des relations interindividuelles. Ça, c'est très très net quand on entend parler quelqu'un comme Ray Kurzweil ou même Kevin Warwick, hein, ou Natasha Vitamore, qui est l'une des, ben, je crois qu'elle dirige actuellement l'association Humanity Plus, hein, qui est une grande association transhumaniste. Bon, ben, ces gens-là, ils le disent, seuls nous importent les individus. Parce que l'avenir est à l'individu. On est dans une espèce de sauf qui peut aujourd'hui. Hein. C'est sauf qui peut. Hein. Et le sauf qui peut, il concerne l'individu avant tout. Hein. Je me souviens, et Gabriel Dort qui est ici s'en souvient peut-être, de la réponse qu'avait fait Natasha Vitamore à quelqu'un qui, dans un colloque, lui demandait ce qu'il en était pour elle de l'individu. Elle a dit, mais écoutez, l'individu... De la relation avec les individus. Il dit, mais non, écoutez, on est comme on est dans un avion lorsqu'on vous annonce qu'il va y avoir une dépressurisation. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, ben, voilà, il y a un masque qui va tomber, appliquez-vous le masque sur le visage, et puis quand ça ira, si ça va, à ce moment-là, vous vous occuperez peut-être de votre voisin, hein, votre enfant ou autre. Mais commencez par penser à vous. C'est en pensant à vous que, éventuellement, vous pourrez faire quelque chose pour les autres. Donc la posture, vous voyez bien, elle est ultra-libérale, ultra-individualiste. Moi, quand je regarde les films cultes de science-fiction, je me dis que toutes les science-fictions qui nous décrivent un monde futur sont aussi sur cette base-là. Hein, Blade Runner ou Matrix, enfin tout ça, c'est des films qui sont à la gloire de l'individu, hein, même plongé dans un univers très très multiforme, polyglotte, etc. C'est quand même l'individu. Et c'est pas forcément heureux d'ailleurs de ce point de vue-là. C'est la solitude aussi de l'individu dans les grandes métropoles du futur. Donc les transhumanistes sont en phase avec cela. Bon, je résume pour l'instant. Le transhumanisme, c'est d'abord et avant tout une position qui est favorable au développement technologique. Voilà. J'ai fréquenté très tôt Marc Roux et l'Association française du transhumanisme, c'était sur cette base-là. J'étais pendant 3 ans au ministère de la Recherche et j'étais en charge de l'organisation d'un débat raté sur les nanotechnologies. Hein, c'était dans les années 2013. Un débat prodigieusement raté. Mais j'ai découvert là la militance des transhumanistes français. Hein, ils avaient proposé un cahier d'acteurs, comme on dit, hein, dans le contexte de ce débat sur les nanotechnologies. Et ce cahier d'acteurs, donc, était tout entier favorable au développement technologique. Et on voyait qu'il y avait un degré d'information important de la part de ces militants transhumanistes français. Ils sont tous convaincus qu'une transition est en train de se mettre en place. C'est pour ça que ça s'appelle transhumanisme. Hein, on est dans une transition, hein, d'un état de l'humanité à un autre état de l'humanité. Hein, et cette transition, elle n'est pas forcément désirable, elle est inéluctable. Hein, et de ce point de vue-là, peu importe le désir, ce qu'il faut, c'est avant tout se rendre attentif à la nature de cette transition, de façon à ne pas être pris de court. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas d'encouragement à la militance à proprement parler, il n'y a pas non plus de complot sectaire, hein, on ne se réunit pas entre soi pour mettre en place des conjurés, mais il y a une exigence de vigilance et l'exigence de prendre au sérieux des promesses générées par ces technologies. Et vous savez que s'il y a un manifeste du transhumanisme, un manifeste presque universel, c'est ce fameux rapport remis au gouvernement américain en 2003 sous le nom de Convergence technologique pour l'augmentation des performances humaines. C'est un rapport qui a été remis par deux hommes, Rocco et Bainbridge, au président Clinton. Et ce rapport, il est maintenant très connu grâce à l'acronyme NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique, sciences cognitives et neurosciences. Et c'est ce manifeste-là qui, dans son ouverture, dans son préambule, définit assez bien la nature des promesses qui sont générées aujourd'hui par les technologies. Ces promesses, on ne nous dit pas forcément qu'elles sont souhaitables, elles nous disent qu'elles vont advenir. On parle dans ce manifeste d'une renaissance, c'est une nouvelle renaissance, et cette renaissance, ça n'est pas une révolution, c'est une renaissance au sens où la renaissance européenne a refoulé le monde ancien, le Moyen-Âge, pour mettre en place de nouveaux possibles. Et ces nouveaux possibles, il faut les accueillir. C'était ça la renaissance du XVIe siècle. La renaissance du XXIe siècle, c'est cela aussi. On fait le tour de tous les possibles technologiques. C'est le sens du rapport qui a été remis à Clinton. Et à partir de là, on dégage des lignes de fuite. On dit l'humain, il sera de plus en plus dématérialisé. L'humain, il n'aura plus besoin de naître puisqu'on saura le fabriquer. L'humain, il n'aura plus besoin de souffrir puisqu'on aura des molécules pour supprimer la souffrance. L'humain n'aura plus besoin de vieillir parce qu'on se sera rendu maître des processus biologiques, de la duplication des cellules. L'humain n'aura plus besoin d'être malade puisqu'on aura résolu toutes les maladies. Et puis l'humain n'aura plus besoin de mourir puisqu'on aura trouvé d'autres moyens de le faire survivre. Voilà, ce sont des promesses, des promesses qu'il faut prendre au sérieux, nous disent les transhumanistes, et qui vont accompagner donc cette transition de l'humain que nous sommes actuellement vers un autre humain qui sera sans doute tellement étranger à l'humain que nous sommes qu'on ne l'appellera même plus humain, on l'appellera post-humain ou comme on voudra. À mon sens, et là c'est là où j'avance des thèses qui sont très discutées chez les transhumanistes, à mon sens, avec le transhumanisme, on a affaire à un mouvement d'opinion qui puise son mobile dans une certaine désaffection pour l'humanité. Je crois que ce qui fait l'homogénéité des transhumanistes, c'est qu'ils sont tous convaincus que l'humanité, c'est pas bien, pour le dire comme cela, que l'humanité, c'est fragile, que l'humanité, c'est frileux, que c'est fermé, que vraiment, décidément, l'humanité est imparfaite, et que cette imperfection fondamentale de l'humanité, on doit y remédier. C'est ça le minimum qui mobilise tous les transhumanistes, qu'ils soient soft ou qu'ils soient hard. Ils n'aiment pas l'humanité telle qu'elle est, c'est clair. Et les plus radicaux d'entre eux vont beaucoup plus loin. Ils disent non seulement l'humanité c'est pas bien, mais l'humanité c'est nocif. Les humains sont les plus grands prédateurs qui soient à l'échelle de la planète. Et puis les humains, non seulement ils ont créé les désordres écologiques qu'on connaît, mais ils ont produit la Shoah, ils ont produit les totalitarismes. Comment voulez-vous qu'on puisse supporter que l'avenir est le visage de l'homme, comme disent certains transhumanistes, Jean-Michel Truong et d'autres. Ça, c'est dans le mobile de bon nombre de transhumanistes, de se dire qu'il faut en finir avec cette aventure humaine qui a Tournécourt qui a avorté, hein, et qui révèle toute sa nocivité. Alors là, il faudrait creuser. Je sais que Gabriel connaît bien toutes ces questions, mais on met souvent en évidence que les transhumanistes ont été nourris à la contre-culture américaine des années 1960. Alors, je ne sais pas si vous êtes un petit peu au fait de cette contre-culture qui est connue grâce à des grands écrivains comme Kerouac, Ferlinghetti, comme William Burroughs, enfin, etc. Contre-culture connue aussi pour les mouvements hippies, hein, etc. Et cette contre-culture, elle était constituée de gens, de jeunes, souvent, qui détestaient le monde de la consommation, qui détestaient la guerre au Vietnam, et qui avaient tous le sentiment que la bombe atomique allait leur tomber dessus, hein, et que le monde c'était fini. C'était à peu près fini. Hein, que ça n'irait pas, on n'irait pas beaucoup plus loin. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, quand on est dans cette situation-là? Voilà, on fume, on prend du LSD, on écoute de la musique rock, hein, et on rêve d'une espèce de fusion de l'humanité. Bon, et c'est tous les thèmes de la musique Pink Floyd, tous les thèmes de cette culture qui était absolument magnifique, bon, bah, à laquelle j'ai évidemment adhéré complètement dans ces lieux-là, à Caen, en 68, par exemple. Hein, bon, donc, cette engeance-là, elle a été très très présente dans les idées qui ont traversé les technologues qui font la culture numérique aujourd'hui. Bon, l'un des grands personnages qui est toujours mis en évidence quand on évoque la contre-culture américaine, c'est Timothy Leary, évidemment. Hein, Timothy Leary qui est le chantre du LSD, hein, qui, lorsqu'il a découvert l'informatique et les prémices du virtuel, a dit « mais c'est pas la peine finalement de se servir du LSD pour s'envoyer en l'air, hein. On a le virtuel, hein. » Et il a abondé complètement dans les projets de développement de cette culture du virtuel, en disant « voilà, c'est ça qui va nous sauver, le salut passera par le virtuel. » Et puis les communautés hippies ont extrapolé et ont donné consistance à cela. Les communautés hippies ont dit « grâce à l'informatique, au computer personnel, au PC, hein, on va pouvoir mettre des liens de communauté hippie à communauté hippie, on va pouvoir contourner le pouvoir central, tourner le dos au pouvoir central, c'est formidable, on va pouvoir générer de l'ingéniosité pour assurer des consommations qui ne seront plus celles des méga-machines, etc. Donc on va pouvoir se sauver avec cela. Bon, ce qui s'est passé par la suite, vous le savez comme moi, hein, tout ça a été très très vite confisqué par les méga-machines, par les Google, Amazon, Facebook, les GAFAM, etc. Hein, bon, il y a eu un dévoiement. Hein, bon, aujourd'hui, on trouve encore des micro communautés qui cherchent encore à rester au plus près de la contre-culture américaine et de se servir de ces technologies pour réaliser des idéaux alternatifs. Je pense aux tiers-lieux, aux paillasses, aux cantines, aux Fab Labs, à tous ces lieux là où on a des technophiles invétérés, hein, mais qui essaient de penser précisément en marche et envers et contre les GAFAM. Donc tout ça est utile à mettre en évidence lorsqu'on parle du transhumanisme. Les transhumanistes sont, à leur manière, le résultat d'une espèce de brouée, de soupe, qui mélange du technologisme, qui mélange de la mystique, qui mélange du néo-bouddhisme. Toutes ces choses-là, qui ont été très très représentées dans les années 1960-1970. Il y avait une revue à laquelle on vouait un culte incroyable en France, qui était la revue Planète, que dirigeait Louis Powells dans les années 1960, hein, qui qui générait tout cela, cette espèce de culture où on misait sur des technologies, mais on misait aussi sur de la mystique communicationnelle, et puis on a invoqué volontiers le bouddhisme, le karma bouddhiste, pour pas essayer de faire lien, mais en disant il y a une conjonction, il y a une convergence avec tout cela. On se servait soit de Teilhard de Chardin, soit d'Aurobindo, le fondateur d'Auroreville, enfin, etc. Tout cela a été extrêmement vivace et présent. Et quand on parle avec les transhumanistes instruits, il y en a pas beaucoup, hein, mais enfin quand il y en a, ça fait écho. Il y a des choses comme ça. Hein. Mais moi, en travaillant la question, je me suis rendu compte qu'il y avait de l'instruction chez des gens que j'imaginais pas. Quand j'ai vu que John Lennon connaissait très très bien Simon le magicien, le gnostique du deuxième siècle après Jésus-Christ, et qu'il puisait des éléments d'inspiration dans cette hérésie du monde chrétien, je disais, il y a quand même quelque chose, quoi. Il y avait des choses qui passaient. Hein. Bon, voilà, donc c'est peut-être un travail qu'il faudrait faire. Alors, je suis un peu bavard, pardonnez-moi, mais il me semble que le transhumanisme, même s'il a été porté à un moment par ces éléments de contre-culture encore une fois, qui était quand même extrêmement sombre dans ses pronostics, puisque on pensait toujours qu'on allait mourir bientôt, hein, que le nucléaire allait faire sauter la planète. Hein, donc c'était sur toile de fond extrêmement sinistre, hein, tout cela quand même. Bon, mais si on met ça de côté, je dirais que ce qui caractérise quand même le transhumanisme, c'est qu'il apparaît comme le revers des désillusions modernes ou des désillusions modernistes. Il est en rupture, et c'est ça que souvent les gens ne comprennent pas. Le transhumanisme est en rupture avec l'idéologie du progrès. Hein, parce que souvent, vous avez des gens qui vous disent la bouche en cœur, mais les transhumanistes, ils sont progressistes, hein, ils veulent le progrès, etc. Hein, et bien je dis non, pas du tout. Ils veulent la rupture. Ce progrès, encensé par les Lumières, par Condorcet et par d'autres, ce progrès, ils n'en veulent pas. Ils pensent que ce progrès, il a conduit au pire. Hein, ce que j'évoquais tout à l'heure, les totalitarismes ou le désordre écologique, etc. Ce qu'ils veulent, c'est la rupture, c'est-à-dire l'arrachement de l'humanité à elle-même. C'est la seule possibilité. Hein, en finir avec nous-mêmes. Hein. Et les technologies que nous avons inventées et qui déploient des comportements autonomes, eh bien, sont les moyens dont nous disposons pour nous arracher à nous-mêmes. C'est ça le paradoxe. Donc il faut laisser ces technologies se développer, il faut laisser l'intelligence artificielle prendre tout le pouvoir, parce que c'est ça qui va nous permettre de faire le saut, de franchir le pas et d'en finir avec ce que nous sommes. Il y a quelque chose de profondément pathétique là-dedans. Hein. Il y a un réel pathos qui ne prend pas toujours cette forme sombre lorsqu'elle s'adresse au public, mais qui est intrinsèquement, basée sur un désamour de l'humain pour lui-même. Le transhumanisme, donc, en ce sens, c'est un symptôme de démesure. Il y a de la démesure, hein, il y a de l'oubris. Hein. C'est le symptôme, évidemment, de la démesure moderniste, puisque les modernes, la science moderne, la technologie moderne a conduit à la démesure, désordre écologique, désordre politique, et c'est en même temps la tentative pour lui donner une issue à cette démesure. Donc si je résumais les choses par des équations, je dirais que être moderne, c'était traditionnellement vouloir le perfectionnement, définition de l'humain par Rousseau, l'humain est un être perfectible. Indéfiniment perfectible. Donc être moderne, c'était vouloir le perfectionnement, mais progressivement, c'est devenu autre chose. Être moderne, c'est devenu vouloir l'augmentation. Vouloir l'augmentation de l'humain, c'est plus perfectionnement. Hein, c'est autre chose. Et enfin, c'est devenu être moderne, c'est vouloir être relevé par les machines, relayé par les machines. Et à ce moment-là, on est dans l'anti-moderne. Hein, on est dans quelque chose qui ne milite plus du tout pour un anthropocentrisme, mais au contraire, pour un déracinement de l'humain. Quand j'essaie d'expliquer ça sobrement, je fais toujours référence au futurisme italien, qui m'a toujours paru très très éloquent de ce point de vue-là. Hein. Le mouvement de Marinetti à la fin des années 1920 est intéressant de ce point de vue-là. On a affaire au chef de file d'une école artistique, hein, qui dit bah, « Aujourd'hui, on a une technologie extraordinaire qui nous permet de rêver de tous les possibles. » La technologie à l'époque, c'est la sidérurgie. Bon, hein, ça nous paraît très très daté, hein, mais transposer ça aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, vous verrez que c'est un peu plus parlant. En tout cas, Marinetti dit « Grâce à la sidérurgie, on doit pouvoir modifier l'humain et le rendre invulnérable. » Et Marinetti prônait l'hybridation de l'acier et du biologique, en disant, voilà, on va, grâce à l'acier, pouvoir évacuer de plus en plus le biologique et réaliser un homme artificiel, un homme d'acier. Hein, c'était l'homme d'acier. Un homme d'acier. Et Marinetti, bon, il croyait dur comme fer, si je puis dire. Hein. Il était convaincu que cet homme d'acier allait nous permettre de nous débarrasser de la nature. On sera plus dépendant de la nature, vous vous rendez compte ? On sera plus dépendant de la femme, parce que la femme, c'est la nature, la femme, c'est la passivité, la femme, c'est ce qui nous tire vers le bas, disait Marinetti, hein, puisque la femme, elle est associée à la naissance, donc au hasard, donc à tout ce qui limite nos possibilités et nos pouvoirs. Bien, le futurisme italien était typiquement sur une base que je retrouve chez nombre de théoriciens contemporains. Hein. Là, ils disent plus en finir avec la femme, ils disent en finir avec la reproduction sexuée. Hein. Bon, hein, en finir avec la naissance, ce qui est une autre manière de dire qu'il faut en finir avec cette passivité à laquelle est toujours associée la nature. Dès qu'il y a nature, il y a passivité. Hein. Et le moderne, et le surmoderne qui est le futuriste italien, c'est de produire de l'activité là où il y a de la passivité. Il y a un philosophe très intéressant qui a très bien vu la chose, à peu près dans ces termes, c'est Gunther Anders. Hein, Gunther Anders, donc, dans les années 50, il écrit un fameux livre qui s'appelle « L'obsolescence de l'homme », où il dit en gros que la technologie d'aujourd'hui, eh bien, c'est une entreprise destinée à supprimer tous les espaces de passivité pour y substituer de l'activité. Et ça, dit-il, c'est parfaitement en phase avec toutes les grandes métaphysiques qu'a produit l'Occident. Qu'est-ce que c'est qu'une métaphysique ? C'est la tentative pour un philosophe de se faire Dieu, de se faire intellectuellement, spéculativement Dieu. Chez Hegel, on a cette belle formule « comprendre les pensées qu'a pu avoir Dieu avant la création ». C'est ça, le métaphysicien. Il cherche à comprendre les objectifs qui ont été ceux de Dieu lorsqu'il a créé le monde. Donc, ne plus se laisser imposer le monde comme un donné, mais comprendre la production du monde à partir de la pensée. C'était ça, la métaphysique. Et tous les grands systèmes de l'idéalisme allemand, Hegel, Schelling, Schleiermacher, Fichte, sont sur cette base-là. Créer des systèmes métaphysiques qui permettent de restituer la dynamique de la création du monde. La technologie fait cela. Elle le fait concrètement là où le métaphysicien faisait la chose seulement spéculativement. Mais on est là-dedans. Donc, voilà, cette espèce d'obsession, hein, d'en finir avec la finitude humaine, c'est-à-dire la passivité, hein, la limitation, hein, et mettre tout en œuvre pour cela. De ce point de vue-là, je dirais que le ressort de la fascination que nous avons, qu'on le veuille ou non, pour les thèmes transhumanistes et post-humanistes, Le ressort de cette fascination tient à une espèce d'infirmité psychologique ou psychique. Et puisque j'évoquais Gunther Anders, c'est quelqu'un qui a très bien vu la chose. En 1950, à l'époque où on est en pleine conquête de l'espace, Gunther Anders écrit à peu près ceci. Il dit « Aujourd'hui, il y a une pathologie nouvelle qui se développe dans les sociétés. » Et cette pathologie nouvelle, il l'a baptisée la honte prométhéenne d'être soi. La honte prométhéenne d'être soi. Il dit les hommes et les femmes se sentent de plus en plus impuissants dans cette société qui est dominée par les technologies. C'est un grand paradoxe. Hein. Nous avons réalisé des technologies fabuleuses, faramineuses, hein, et nous sentons par rapport à elles de plus en plus impuissants. J'ai publié il y a quelques années un livre qui s'appelle « L'homme simplifié » dans lequel j'ai consacré un chapitre au livre de Ernst Jünger, « Le travailleur ». Parce qu'il m'avait paru très très parlant, ce livre. Dans ce livre, Jünger décrit la guerre de 14-18 et il met en évidence le fait que c'est la première guerre qui est dominée par les technologies. Et c'est une guerre qui produit un traumatisme considérable, non seulement dans la population, mais chez les soldats. Chez les soldats qui, tout à coup, découvrent que ces technologies monstrueuses, ces armes, ces bombardiers, enfin, etc., les rendent complètement passifs, les rendent complètement impuissants. On est terré dans les tranchées, on ne sait pas de quel côté ça va tomber, mais ça va tomber, et on est impuissant, on ne sait plus rien faire. Et l'homme, issu de 14-18, donc, a découvert son impuissance fondamentale. Et tout au long du XXe siècle, ce sentiment d'impuissance n'a cessé de croître. N'a cessé de croître. Au point que l'humain a honte de lui-même. Il a honte d'avoir produit les conditions de sa propre honte. Et il est enferré dans une situation dans laquelle il ne peut vouloir qu'une chose. Bah, c'est se rendre égal aux machines, c'est-à-dire fusionner avec les machines. Vous voyez cette espèce de logique, hein, cette honte va générer de la technophilie. Hein, fusionner avec la machine, c'est échapper à la faiblesse qui est la nôtre, à la limitation qui est la nôtre. Hein, et on ne peut pas s'empêcher de produire des technologies de plus en plus envahissantes. Hein, et en même temps, on répugne à être ce que l'on est, donc on ne peut que vouloir rejoindre ces technologies. C'est le discours de Laurent Alexandre dans le livre qu'on a fait, revient continuellement. Il dit, ben voilà, l'humanité aujourd'hui, elle est scindée en deux. Hein, y a ceux qui, comme moi, savent qu'il faut monter dans le train en marche, hein, et il faut apprendre l'intelligence artificielle, il faut faire apprendre du code à nos enfants, composer avec les machines, pactiser avec les machines, ou alors, il faut se résoudre à n'être jamais plus qu'un chimpanzé du futur, c'est comme ça qu'il le dit. Vous, moi, qui n'accepterons pas de monter dans le train de la technologie, serons les chimpanzés du futur. L'alternative, elle est là. Alors, ce que j'avais montré dans mon livre « Demain, les post-humains », c'est qu'il y avait là une structure dépressive considérable. La technologie engendre de la dépression, c'est évident. Et j'en avais pris à témoin les psychothérapeutes d'aujourd'hui qui disent qu'ils n'ont plus affaire à des névrosés, mais à des dépressifs. Le névrosé, c'était bien. Quand on est névrosé, on est dans le conflit. Hein, il faut en découdre avec papa, avec maman, etc. On est dans le ternaire, on est dans le deep. Hein, ça bataille quand on est névrosé. Quand on est dépressif, il n'y a plus rien, il n'y a plus de surface de conflictualité. On est dans le dégonflage complet ou dans l'hyperactivité, mais en tout cas, on est dans la non-mentalisation. Très intéressant de lire les psychothérapeutes ou les sociologues comme Alain Ehrenberg ou autres, hein, qui montrent bien que les pathologies dominantes ont changé aujourd'hui. Hein, dans le monde des technologies, la pathologie dominante, c'est la dépression. Et c'est sans doute un signe qu'il faut accueillir. Alors si on n'est pas trop pessimiste, on pourrait se dire qu'après tout, les technologies, elles ont un rôle anxiolytique. Hein, et là, tous les geeks ou tous les addicts des jeux vidéo me donneront raison. On sait très bien que les technologies, elles ont un rôle anxiolytique, hein, qu'elles permettent de remédier à une espèce d'inquiétude existentielle très très virulente chez les adolescents, souvent. Mais plus largement, cette inquiétude existentielle, elle est propre aux démocraties. Hein. Là, j'en prendrai à témoin Tocqueville, hein, qui montrait très bien que la démocratie allait s'accompagner du développement d'un individualisme, mais d'un individualisme qui serait vécu de plus en plus sur le mode de l'angoisse, parce que l'individualiste, il est coupé de ses repères traditionnels, qui étaient la famille, qui étaient la nation, qui étaient toutes ces grandes références qui lui permettaient de se structurer un petit peu. Là, nous sommes dans un contexte de déstructuration, de désymbolisation, qui explique que l'hypermodernité à laquelle nous assistons aujourd'hui est à la recherche d'anxiolytiques. Hein, et quand ça se résout bien, cette hypermodernité, elle est en quête de valeurs de dépassement de soi. Et ce dépassement de soi, ben, il peut passer par cette ambition de fusionner avec les machines. Hein, et tous les mythes, Terminator et autres, sont là pour alimenter en quelque sorte cette aspiration. Le transhumanisme, par ailleurs, vous voyez, donc c'est assez pointilliste, hein, ce que je vous propose, enfin très, j'allais dire impressionniste. Hein, je fais signe vers quantité de pistes de réflexion, hein, qu'on pourrait creuser. Il y a une autre piste de réflexion, puisque je disais tout à l'heure que pour certains transhumanistes, on va évoluer soit vers la cyborgisation, être devenir de plus en plus des cyborgs, soit vers la bionisation, hein, et faire en sorte que l'homme soit de plus en plus un homme bionique, c'est-à-dire modifié génétiquement, c'est-à-dire trafiqué au niveau du génome. Ben, oui, je crois qu'on ne peut pas évoquer le transhumanisme sans évoquer le fantasme d'une maîtrise de l'évolution biologique. Ça, c'est un thème très très important. Chez les transhumanistes, il y a un culte pour les grandes figures qui ont très très tôt dit que la biologie, ça devait servir à la modification de l'espèce. L'un des premiers à l'avoir dit, c'est Francis Galton. Francis Galton, c'était le cousin de Darwin. Hein. Et au début du XXe siècle, Galton, qui était un biologiste très célèbre, a introduit le thème de l'eugénisme. On pense même que c'est lui qui a utilisé le terme eugéniste le premier, hein, en écrivant que on ne faisait de la biologie que dans un but, c'était non pas de comprendre l'humain, mais de produire un humain, il disait pas augmenté, hein, mais amélioré. Hein. Et quand on posait la question à Galton, pourquoi augmenter l'humain, il avait une réponse très simple. Il disait, il faut augmenter l'humain pour qu'il soit en mesure de travailler avec ses machines. Vous voyez, donc améliorer l'espèce pour qu'elle reste en phase avec les machines. C'était à l'époque où on commençait à dire que le maillon faible dans les entreprises, c'est l'humain. On rêvait déjà d'une entreprise, d'une industrie qui fonctionnerait qu'à l'automatisme. On disait le maillon faible, c'est l'humain. Alors comment faire pour que ce maillon faible ne pénalise pas l'industrie? Eh ben, réponse, améliorer l'humain, hein, en se servant de la biologie. Tout ça a été très très clair, très très net, hein, et c'est un thème qui, tout du long du XXe siècle, va courir, hein, va, va être repris, et souvent sans complexe, puisqu'on n'a pas encore assisté à la révélation de l'eugénisme tel que le nazisme l'a sollicité. Donc l'eugénisme n'avait pas mauvaise presse à cette époque-là. Hein, quelqu'un comme Jean Rostand a pu écrire un livre dont le titre est « L'homme surhumain » ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus exactement du titre, mais dans lequel il développe là aussi des préoccupations eugénistes, hein, depuis la biologie. Alors il y a une autre grande figure de biologiste qui hante le transhumanisme, c'est Julian Huxley. Julian Huxley, qui est donc le frère de Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des mondes, et Julian Huxley était biologiste lui aussi. Il a été président de l'UNESCO, à la création de l'UNESCO, donc une grande figure spirituel, intellectuel. Et il est réputé être celui qui a utilisé la première fois le terme transhumanisme, justement. Et lui, il est néo-lamarckien. Il a une conception de l'évolution qui conduit à dire l'évolution obéit à une volonté d'adaptation, ce que ne dit pas le darwinisme, hein, mais le lamarckisme le dit, l'humain évolue en s'adaptant, hein, et les outils sont des instruments d'adaptation, hein, et si on perfectionne les outils, on va perfectionner l'adaptation, évidemment, et si on va au bout, on arrivera à contrôler l'évolution, hein, donc la technologie. C'est l'ensemble des outils par lesquels les humains vont maîtriser l'évolution même de l'espèce. Et ça, c'est une figure importante. Et puis, vous avez ceux des transhumanistes qui se servent de Teilhard de Chardin, que j'évoquais tout à l'heure, donc ce père jésuite, paléo-anthropologue, et qui, dans un grand livre, Le phénomène humain, décrit en gros l'évolution, disant que les outils permettent de plus en plus aux humains de se dématérialiser, de se décorporaliser. Et ce que retiennent les transhumanistes de Teilhard de Chardin, c'est l'idée que le jugement dernier, ce que dans la liturgie chrétienne on appelle le jugement dernier pourrait correspondre au moment où l'humain se serait tellement dématérialisé qu'il pourrait abandonner le corps, abandonner son corps, faire triompher la conscience, et le jugement dernier, ce serait cette espèce de scène terminale, hein, au cours desquelles nous nous serions débarrassés de nos corps, de notre corporéité, c'est-à-dire de notre passivité, puisque le corps, c'est la passivité, hein, et nous serions rentrés dans ce royaume des cieux. Vous voyez, alors on appelle ça le point oméga, et les transhumanistes sont très très impressionnés par cette représentation-là, puisqu'ils ont l'impression que toutes nos technologies sont des technologies de la dématérialisation. Hein, on est passé de la matière à l'énergie, et maintenant de l'énergie à l'information. Hein, tout repose là-dessus. Donc pourquoi pas imaginer que nous soyons en train de nous débarrasser progressivement de cette corporéité. Vous voyez, tout ça est quand même relativement cohérent. Alors, tous ces biologistes ou néobiologistes sont convaincus que l'homo faber que nous avons été a été sélectionné par l'évolution. L'évolution naturelle a sélectionné l'homo faber. L'homo faber a développé une civilisation technicienne. Eh bien, la technique pourrait aujourd'hui rétroagir sur l'évolution et influer sur les trajectoires qu'engagerait cette évolution. Ce qu'on appelle l'effet réversif. Et cet effet réversif est un thème de doctrine chez pas mal de transhumanistes. Donc, moi j'ai entendu des technologues m'expliquer cela très simplement, me dire, vous voyez, on ne sait pas exactement où on va, mais nous multiplions les innovations technologiques. Nous les multiplions, les applications, les machins et les trucs, etc. Toutes ces évolutions, ces innovations technologiques, nous les insérons dans notre environnement. notre environnement, qui est de plus en plus un environnement technologique. Eh bien, on pourrait très bien imaginer que chacune de nos innovations soit des variations que nous introduisons dans un environnement dont les pressions sélectives sont technologiques, et ces variations pourraient produire des mutations, et ces mutations pourraient faire advenir des nouveautés, des nouvelles espèces. Donc ce qui se passe dans l'évolution naturelle se retrouverait dans l'évolution technologique. Dans l'évolution naturelle, c'est ce qui se produit. Hein. Il y a des cellules qui se dupliquent, qui se dupliquent, qui se dupliquent, et puis elles font des erreurs de copie. Ces erreurs de copie produisent des variations qui vont se dupliquer, se dupliquer, se dupliquer, puis à un moment donné, ça va produire des mutations, puis ces mutations, ça va produire de nouvelles espèces. En gros, c'est le schéma néo-darwinien. Hein. Mettez à la place des cellules qui se dupliquent, des technologies qui sont souvent des technologies de la duplication, et puis vous avez le pendant technologique de l'évolution biologique. Donc c'est un argument, une espèce de vision que partagent pas mal de technologues, technoprophètes, comme on les appelle, hein, qui parlent de singularité ou qui parlent du successeur, qui parlent du point oméga, qui parlent de ce moment de rupture qui fera advenir quelque chose de nouveau. Alors, je voudrais également souligner le fait qu'on ne peut pas dire que le transhumanisme soit un volontarisme. Sur le terrain du comportement philosophique. Le transhumanisme n'est pas un volontarisme. Pas plus que la révolution métaphysique qu'attendait la contre-culture américaine n'était volontariste. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, souvent. L'idée que on puisse souscrire à des comportements qui disqualifient la volonté. Je pourrais dire les choses brutalement. Vous allez avoir Dominique Bourg, je crois, enfin ceux d'entre vous qui viendront l'écouter bientôt. Dominique Bourg, c'est un écologiste qui est volontariste. Il dit voilà, il faut y aller, il faut transformer les choses, etc. Il faut se battre. Eh bien, il y a des écologistes qui disent le contraire, que c'est parce qu'on s'est battu qu'on a créé tous les désordres. Faut pas vouloir. Il ne faut pas se mettre en tête de vouloir, parce que la volonté humaine, elle est non seulement faillible, mais elle est prédatrice, elle etc. Il faut au contraire composer. Si l'humanité avait composé avec la nature, on n'en serait pas là. C'est parce qu'il s'est voulu un être de volonté qu'il a produit les désordres qu'on connaît. C'est la faute à Descartes, c'est la faute à Rousseau, c'est la faute à tous ceux qui voulaient changer les choses. Donc, il y a une culture de la déprise, il y a une culture du taoïsme. Voilà, si on veut vivre harmonieusement, il faut s'abandonner aux choses et se déprendre. La Beat Generation, ce qu'on a appelé la Beat Generation dans la contre-culture américaine, était sur cette base. Surtout ne pas vouloir composer, simplement. Et le fondement de l'importation du néo-bouddhisme en Occident repose beaucoup là-dessus. Vous savez, l'un des philosophes qui a été à la clé de cette importation du néo-bouddhisme, c'est Schopenhauer. Schopenhauer qui est convaincu que la volonté, c'est ce qui nous rend malade, c'est ce qui est la faiblesse même, la faiblesse ontologique de l'humain. Et il faut se débarrasser de la volonté. Et c'est en ce sens qu'il a accueilli le néo-bouddhisme. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a rien de prosélyte ni de militant chez les transhumanistes. C'est en ce sens. On ne se met pas en tête de vouloir faire le bonheur des gens à leur place. Ça, tous les terroristes le veulent. Tous les terroristes pensent que la volonté de faire le bonheur des autres est dans la vocation même de l'humain. Non. Ça va très loin, puisque ça en revient aujourd'hui à aduler d'une certaine façon le hasard et la déprise. Se dire que l'intervention est inutile, et elle est même nocive. L'engagement politique est mauvais. parce qu'il biaise toujours les choses. Qu'est-ce qu'il faut faire, donc? Certains technoprophètes vous le disent simplement. Ils disent, il faut mettre en place simplement les circonstances qui vont permettre les mutations en multipliant des possibles techniques. Donc on ne va pas rien faire, mais on va rien faire qui n'ait de sens au-delà de l'immédiat. On multiplie les choses, on fait plein de choses et on s'attend à ce que ces choses produisent, fassent émerger quelque chose de nouveau. Tous les théoriciens de la complexité, on a parlé beaucoup de sciences de la complexité ces dernières décennies, reposent là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'un phénomène complexe? C'est un phénomène qui émerge sur la base de micro-variations au niveau de ce qu'on appelle les conditions initiales des systèmes. Les systèmes ont des conditions initiales. Si vous influez minimalement sur ces conditions initiales, vous produisez quelque chose de nouveau qui va connaître des bifurcations et qui va faire advenir des phénomènes émergents. Cette pensée de la complexité qui a été associée à des noms comme Edgar Morin, Ilya Prigogine, etc., elle est fondamentalement non volontariste. Les choses sont tellement complexes qu'on ne peut pas prévoir que ce qu'on fait produira tel effet. On fait des choses, ce qu'elles vont produire, on ne le sait pas. Donc il faut être vigilant sur ce qu'on fait, évidemment, et multiplier des choses diverses, pratiquer des choses de l'ordre de la biodiversité, si vous voulez, pour faire advenir quelque chose dont on ne sait pas ce que ça. Mais si ce qu'on produit franchit la barre de la sélection, c'est-à-dire survit, c'est que ça méritait de survivre. Autrement, ça passe à la trappe. C'est très important. J'évoquais tout à l'heure le manifeste NBIC remis à Clinton. Eh bien, dans les premières pages de ce manifeste, c'est ce qu'on invoque, la culture de la complexité. En disant, il y a des strates, le monde est une succession de strates. Ce qu'on fait à une échelle trouve son répondant à une autre échelle. Mais on ne sait jamais exactement ce qu'on fait. On ne sait jamais exactement ce qu'on fait. C'est très important d'avoir présent à l'esprit cette idée-là. C'est ce qui nous conduit aujourd'hui à avoir une autre vue sur le métier d'ingénieur, par exemple. Longtemps, l'ingénieur, c'était celui qui avait les plans dans la tête et qui savait ce qu'il faisait, puisqu'il avait tout dans la tête, c'était planifié. Donc il avait des procédures, tout ça. Cet ingénieur-là, il n'existe plus. Enfin, si, il existe encore, heureusement. Mais c'est plus cet ingénieur-là qui bouleverse le monde. L'ingénieur qui bouleverse le monde, Hannah Arendt le décrivait très bien. Elle disait, au fond, l'ingénieur nouveau style, c'est celui qui met tout en œuvre pour se laisser surprendre par ce qu'il fait. Vous vous rendez compte? Il met tout en œuvre pour se laisser surprendre par ce qu'il fait. Et c'est par définition, donc quelqu'un qui ne cherche pas à avoir la maîtrise, il sait qu'il n'aura plus la maîtrise, mais il sait qu'il peut produire, qu'il peut contribuer à produire du nouveau. Et ce nouveau, et on trouve typiquement ces comportements-là en biologie de synthèse. La biologie de synthèse est une discipline récente, où, dans laquelle on travaille à hybrider de l'électronique et du biologique, à créer des machines, des trucs dont on ne sait pas exactement à quoi ça va servir. On ne sait pas, mais on bricole. Et puis, quelquefois, du bricolage émerge quelque chose dont on se dit, ça pourrait servir à créer des molécules nouvelles en pharmacie, etc. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, c'est ça qui est important à bien comprendre, cette espèce de nouvelle posture qu'on a par rapport aux choses et qui permet au thème transhumaniste de trouver un certain écho dans les communautés scientifiques, dans les laboratoires scientifiques. hein, où le discours des transhumanistes interpelle de plus en plus des scientifiques qui disent oui, c'est vrai qu'on en est là, hein, on en est à aujourd'hui chercher à mettre en place les conditions d'apparition possible de phénomènes émergents dont on ne sait pas exactement ce qu'ils pourraient produire. En ce sens, il y a une solidarité de fond entre les transhumanistes et les écologistes profonds. C'est ce que j'avais montré dans un chapitre de mon livre « Demain, les post-humains » et qui m'avait valu des débats avec certains écologistes qui n'admettaient pas cette analogie. Et pourtant, dans les deux cas, il y a un refus de la volonté de transformer la nature autrement qu'en lui soumettant des possibles. C'est tout. Donc, transhumaniste, écologiste profond, il y a quelque chose qui va de pair, que mon ami et collègue Jean-Pierre Dupuis avait baptisé par l'expression de principe d'immaîtrise. Il disait, notamment dans un livre intitulé « Le catastrophisme éclairé », un très bon livre, il disait, après Descartes qui cherchait à faire prévaloir un principe de maîtrise, nous en sommes aujourd'hui à un principe d'immaîtrise, se rendre non maître des choses pour permettre qu'apparaissent des possibles. Sachant que la maîtrise est toujours hyper sélective, ouvrons le champ en nous déclarant non maître des choses. Et l'immaîtrise devient l'objet d'une espèce d'ascèse. Alors, je vois que je suis très, très bavard et je voudrais laisser la place un peu pour la discussion. Je continue et je vais conclure bientôt quand même. On évoquait tout à l'heure avec Gabriel Dort, à l'heure du déjeuner, le fait que le transhumanisme, c'est aussi évidemment un avatar du capitalisme aujourd'hui. On ne peut pas, évidemment, enfin. Mais oui, bien sûr, on ne peut pas évidemment passer sous silence le poids des GAFAM et des BATX. On ne parle jamais des BATX, mais à mon avis, on a tort, parce que c'est sans doute BATX, c'est la conjugaison des grandes entreprises du numérique chinois. C'est l'équivalent de Google, Facebook, Amazon, Microsoft, et j'en oublie un, Apple. Voilà. Donc, c'est l'équivalent. Ces grands groupes financiers, industriels, technologiques, sont évidemment adossés au thème transhumaniste et il y a une interférence. Et c'est vrai que le transhumanisme ne répugne pas du tout à l'idée, à l'ambition de contribuer à la prospérité des nations, à l'enrichissement des nations grâce aux données, aux data dont nous sommes les supports, j'allais dire même les suppôts, même involontaires. Et ça, c'est évidemment quelque chose qu'il faut creuser, il ne faut pas être nié. La force de frappe des thèmes transhumanistes ne tient pas du tout à leur absence de métaphysique ou des choses comme ça, mais évidemment au fait qu'ils sont souvent annexés par les GAFAM et par les BATX. L'idée dominante peut-être qu'il faudrait mettre en avant, c'est le fait que ces GAFAM ou BATX ont en commun un grand mépris pour la politique. Et ça, c'est important. La politique, les politiques, sont l'objet du plus grand discrédit de la part de tous ces grands groupes qui vous disent, quand ils vous parlent, que au fond, aujourd'hui, les politiques viennent leur manger dans la main. Les politiques n'y connaissent rien, se laissent avoir au premier slogan venu, vont financer des choses absolument invraisemblables, cerveau artificiel ou des choses comme ça. Mais ces politiques ne se rendent pas compte qu'ils sont complètement débordés, largués, puisqu'il y a des juristes parmi vous. Je dirais aussi que ce qui me paraît évident, c'est que le transhumanisme contribue beaucoup aujourd'hui aussi à discréditer tout ce qui relève du droit et du droit subjectif. Hein. J'avais amené là l'échange que j'ai eu avec Alain Bensoussan il n'y a pas longtemps dans un grand journal. J'étais atterré de voir à quel point des juristes peuvent se réjouir du fait que les sciences cognitives discréditent la conscience, l'intentionnalité, que l'idée de la responsabilité soit une idée qui sonne de plus en plus creux, hein, etc. Donc il y a aussi là une mutation qui est extrêmement préoccupante. Hein. Alain Bensoussan, qui était mon interlocuteur dans cet entretien, est quelqu'un qui milite pour qu'on accorde la personnalité juridique aux robots, et même la personnalité tout court, hein, au robot, au motif que, de toute façon, les phénomènes de conscience, d'intentionnalité, etc., sont tellement nébuleux qu'on peut complètement s'en débarrasser. Et en ce sens, il n'y a aucune raison de ne pas accorder autant que disait-il, par exemple, ou enfin, bon, peu importe, si... Je considère que le robot est toujours responsable face à un humain, etc. Et il démontre par le menu que lui, juriste, n'a aucun état d'âme par rapport à l'idée que nous pourrions devoir fusionner tout simplement avec les robots et nous laisser de plus en plus suppléer par eux. Donc je crois que là, il y a un thème aussi à creuser. Alors, est-ce que le transhumanisme a de l'avenir ? Ben je pense qu'en tant qu'il offre une vision, entre guillemets, à un monde qui est hanté, de plus en plus hanté par l'innovation technologique, il peut avoir un avenir, hein, c'est évident. Il peut alimenter cette espèce de fuite en avant qui nous caractérise. Hein, et qui nous conduit donc à abonder la première innovation venue. Il peut donner aussi du sens à ce qui paraît ne plus en avoir. Donc de ce point de vue-là, peut-être que le transhumanisme peut avoir une vertu structurante, après tout. Hein, ce dont on parle là est tout neuf, est en voie de constitution, et on ne peut pas exclure que du sein du transhumanisme émerge justement une pensée un petit peu forte et qui irait à l'encontre de l'absurdité de notre monde reposant sur le handicap de compétitivité, sur les impératifs de la mondialisation, etc. etc. On ne peut pas exclure complètement que le transhumanisme contribue à ramener les technologies vers l'humain, même un humain considérablement modifié. Après tout, si aujourd'hui tous les thèmes entourant l'immortalité paraissent absurdes, dérisoires ou autres, bon, rien n'empêche d'imaginer que ce soit par là néanmoins qu'avec un peu plus de subtilité, on remoralise, on redonne du moral à une humanité dépressive. Hein. Donc, je pense que le fait que tous les thèmes transhumanistes pénètrent si facilement les esprits de nos contemporains est peut-être le signe de l'installation de quelque chose qui pourrait redevenir structurant. Je ne le crois pas foncièrement, pour toutes les raisons que je vous ai dites, mais ce n'est pas complètement à exclure. Je ne le crois pas parce que je pense qu'on ne bâtira rien sur la base d'une disqualification de l'humain. Je crois qu'on ne bâtira rien sur la base de la disqualification de la vertu symbolique qu'il y a dans l'humain. Hein. Mais je pense qu'on doit se confronter à la chose. Bon, je n'ai pas le temps, mais j'aurais pu parler du transhumanisme dans le monde de la santé, puisque c'est plutôt sur ce versant-là que je travaille beaucoup aujourd'hui. Je pense qu'une resymbolisation de la maladie, de la mort, de la relation médecin-patient, une resymbolisation, c'est-à-dire quelque chose qui repart, qui renaîtrait sur la base d'une la fonction dialogale qu'il y a grâce au langage, bon, pourrait peut-être permettre de rendre compatible la perspective de l'humain augmenté, si l'on veut, avec la dimension humaine, profondément humaine. Hein. Donc, voilà. Mais le transhumanisme, pour devenir un vecteur de structuration morale, va devoir affronter bien des réactions. Et là, bon, je pense que il y a tout à faire sur le terrain philosophique. Je pense qu'il faut réhabiliter sans doute une éthique de la vulnérabilité qui redonne consistance donc à l'humain, et puis repenser peut-être la technique, hein, autrement qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Dans le champ de la philosophie de la technique, si certains d'entre vous le connaissent un petit peu, ils savent qu'il peut y avoir deux versions. Il y a la version, disons, heideggerienne, qui considère que la technique est une impasse, hein, et que c'est le résultat des impasses de la métaphysique. Mais aujourd'hui, on relit avec grand intérêt un penseur comme Gilbert Simondon, hein, qui était un philosophe passé complètement à la trappe ces 3, 4, 5 dernières décennies, et dont l'objectif était de dire qu'il faut se rendre ami des technologies, hein, ne pas s'opposer aux technologies comme à des ennemis, comme le faisait quelqu'un comme Jacques Ellul, hein, mais essayer de penser les conditions d'un pacte avec les technologies. Et je pense qu'il y a des voies intéressantes. Quelqu'un comme Kasparov, hein, celui qui a été battu par Deep Blue aux échecs il y a quelques années, est quelqu'un qui milite pour ça. Il dit on doit pouvoir se rendre ami des technologies, pour peu d'abord de savoir où sont les limites de part et d'autre. Hein. Aujourd'hui, le problème, c'est que on ne pense pas en termes d'amitié, mais en termes de fusion, hein, d'amour presque, hein, fusionner avec les machines. Alors que la bonne solution, ce serait de se dire, il y a des choses que les machines ne font pas, qu'elles ne feront pas. La fonction symbolique de l'humain n'est pas susceptible d'être réduite aux mécanismes et aux automatismes. Donc défendons cette fonction symbolique. Hein, défendons cette fonction symbolique. Pour ma part, dans la conclusion de mon livre « L'homme simplifié », je militais pour la littérature. Je disais « réactivons la littérature », qui est sans doute le lieu même où la fonction symbolique se révèle réfractaire à la réduction par les mécanismes et par les modèles cybernétiques. Hein, réétayons donc tout ce que l'humain a en propre, hein, et accordons seulement aux machines ce qu'elles sont capables de nous apporter. Bon, c'est banal comme perspective, mais je pense que c'est par là qu'il faut essayer de se positionner. Hein. Donc avoir une approche, au fond, anti-réductionniste des technologies, hein, et militer pour une spécificité de l'humain. C'est pas un message qui est toujours bien reçu. Hein. Vous avez toujours aujourd'hui les antispécistes qui disent « Mais non, bah, nous, les humains, on est des animaux comme les autres. » D'autres disent que nous sommes des robots un peu plus perfectionnés que les robots actuels, mais les robots actuels vont évoluer, etc. Ben, moi, je dis non, il faut qu'on essaie de se situer, nous, humains, là où le robot trouve sa limite, et là où l'animal n'est pas nous. Nous ne sommes pas des animaux comme les autres. Hein. Nous avons des prérogatives qui nous sont propres, et c'est par là que nous pouvons peut-être nous promettre une issue. Voilà, bon, écoutez, j'ai été bavard, je peux peut-être arrêter là et puis se livrer à une discussion.